Il est 7h.
La décision qui a été prise, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite si l'avis de l'EMA le permet.
Principe de précaution et transparence. En attendant la décision de l'Agence européenne des médicaments, des considérations plus politiques que sanitaires à l'origine de la suspension du vaccin AstraZeneca. Explication dans un instant et conseils pratiques aussi pour celles et ceux qui ont déjà reçu une injection. Face à l'épidémie, de nouvelles décisions attendues cette semaine pour l'Île-de-France où un quart des patients en réanimation sont désormais accueillis dans des établissements privés. Dans ce journal aussi, une nouvelle prime Macron. Le report probable demain du procès de l'affaire Big Malion et des cambriolages pas si anodins sportivement et psychologiquement dans le monde du football. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et rien ne va plus entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Bruxelles accuse Londres de ne pas respecter le traité de Brexit et menace de sanctions financières.
Vincent Hervoet, le regard international, l'édito sport de Virginie Fulpin, puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, pour l'expression du jour, on n'aura pas le cafard, mais je vais vous raconter d'où ça vient et pourquoi on dit ça.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec vous, Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et c'est donc un avis d'ores et déjà très attendu, celui de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin AstraZeneca et ses possibles effets secondaires. Elle se prononcera jeudi. D'ici là, plus aucune dose fournie par le laboratoire ne sera utilisée dans 7 pays européens, dont la France.
Alors pourquoi cette décision du président hier, alors que la veille, Jean Castex avait dit sa confiance dans cette formule? On a besoin de votre éclairage, Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique ce revirement ?
Alors sur le plan de la fréquence des effets secondaires, rien de plus. Certaines personnes ont présenté des troubles de la coagulation, mais ils sont rares, de l'ordre de 1 cas pour 160 000. Et l'Agence française de sécurité du médicament l'a confirmé hier soir. À ce jour, peu de cas ont été signalés en France. On ne déplore chez nous aucun décès et surtout aucun lien de cause à effet n'est établi entre ces thromboses et la vaccination. Alors effectivement, pourquoi stopper la campagne dans ce cas-là ? Eh bien, parce que c'est une décision politique, celle d'appliquer un principe de précaution maximum, comme le font d'autres pays, celle d'assurer une totale sécurité et transparence de la campagne vaccinale, explique-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran. En faisant cela, l'exécutif espère prévenir tout mouvement de défiance envers ce vaccin d'AstraZeneca qui reviendra dans la course si l'Agence européenne du médicament parvient à lever les doutes.
Rassurer donc, on l'entend bien, Anne, mais justement, celles et ceux qui ont déjà reçu une injection d'AstraZeneca, plus d'un million de personnes, que doivent-elles faire aujourd'hui ?
Eh bien, rien de spécial. Les autorités sanitaires les invitent à se rapprocher de leur médecin en cas d'effet indésirable, mais comme pour tout autre vaccin, rien de plus. Car on rappelle encore une fois qu'à ce jour, la suspension est un principe de précaution. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, qui doit aussi se réunir aujourd'hui, l'OMS, continue de recommander la vaccination avec AstraZeneca.
Explication d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Autre décision attendue cette semaine, celle qui concernera l'Île-de-France où l'on recense aujourd'hui plus de patients en réanimation que lors du pic de la deuxième vague en novembre dernier. Un reconfinement n'est pas exclu. En attendant, les évacuations sanitaires se poursuivent et les cliniques privées sont mises à contribution. Lamine Garbi est le président de la Fédération de l'hospitalisation privée.
Sans nous, ce serait encore plus difficile. 25% des patients actuellement en réanimation en Île-de-France sont pris en charge par les cliniques privées. La montée en puissance des cliniques privées remonte à environ une quinzaine de jours. Nous étions à 10% de prise en charge et il est vrai que depuis lundi dernier, sous injonction de l'ARS, nous avons déprogrammé 40% de nos blocs opératoires pour justement libérer de la place en service de réanimation. Aujourd'hui, nous avons 90 places de réanimation disponibles, donc nous avons encore de la place. S'il faut, demain, nous trouverons des lits supplémentaires, soit par de la déprogrammation, soit par l'ouverture de places supplémentaires surnuméraires. Ce n'est pas à souhaiter, car ce n'est pas extensible, et surtout, nous sommes, comme les collègues du public, en difficulté pour avoir la capacité de mobiliser des médecins et des infirmières.
Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée avec Romain Oquet. Des investigations lancées à Lannion en Bretagne sur un nouveau variant du Covid. Il s'agira notamment d'étudier l'impact de ce variant sur le diagnostic. Plusieurs malades atteints présentaient des tests PCR négatifs.
Elle avait vu le jour en 2019. La prime Macron reconduite pour cette année.
Annonce hier du gouvernement à l'issue de la conférence du dialogue social. Une prime de 1000 euros pour tous les bas salaires et notamment Olivier Samin pour celles et ceux qui ont été particulièrement exposé depuis le début de la pandémie.
Oui, cette prime devra profiter bien sûr aux travailleurs de la deuxième ligne, les caissières, les manutentionnaires, les agents d'entretien, les chauffeurs de poids lourds, les ouvriers du bâtiment, les aides à domicile qui sont restés sur le pont au moment du premier confinement. Mais Jean Castex veut qu'elle soit plus largement distribuée. Tout le monde pourra espérer la toucher, en tout cas en dessous d'un niveau de salaire qui reste à définir. Comme la prime Macron de 2019, elle ne sera pas soumise à l'impôt. Elle sera exonérée de charges sociales et c'est l'employeur qui aura la main. C'est lui qui déterminera le montant dans un plafond de 1 000 euros qui pourra aller jusqu'à 2 000 euros s'il a conclu préalablement un accord d'intéressement ou si une négociation s'est engagée au niveau de la branche ou de l'entreprise pour revaloriser la grille de rémunération et les conditions d'emploi des travailleurs de la deuxième ligne. Alors il reste encore un certain nombre de points à préciser, disait hier soir le ministère du Travail, mais l'objectif c'est que cette prime soit versée avant la fin de l'année.
Olivier Samin, le gouvernement qui a aussi annoncé la prolongation jusqu'en mai des aides à l'embauche des jeunes. Ce sera jusqu'à la fin de l'année pour les aides au recrutement d'apprentis.
Les étudiants, eux, comptent bien se faire entendre. Manifestation aujourd'hui, notamment à Paris, contre la précarité renforcée encore par la crise sanitaire.
Eux n'en sont pas encore là. Reste encore pour les terminales le passage du bac, nouvelle version, avec un grand oral décisif prévu pour la fin du mois de juin.
Sauf qu'avec la crise, ces élèves n'ont jamais été confrontés à ce genre d'épreuve difficile. Difficile de se projeter, l'heure est donc déjà aux préparatifs et aux conseils avec Virginie Riva pour Europe 1.
Pour ces terminales, l'épreuve du grand oral pourrait être la seule épreuve orale de toute leur scolarité, leur bac français ayant été annulé l'an dernier. Alors, forcément, le stress commence à monter. L'épreuve durera en tout 20 minutes avec un cours exposé portant sur les spécialités, un échange et enfin des questions sur le projet professionnel. Clara a débuté les premières séances d'entraînement dans son lycée Jules Ferry à Paris.
Je suis quand même angoissée avant de passer à l'oral. Déjà, à la dernière minute, j'ai plus envie de passer, même si je suis super bien préparée. J'ai les mains moites, je tremble un peu. Enfin, souvent, il y a beaucoup de mots du quotidien qui sortent, genre, c'est un mot qu'on dit tout le temps.
Pas d'inquiétude, répond l'avocat Bertrand Perrier, spécialiste de l'éloquence, qui dévoile quelques trucs.
Perdre ses moyens, c'est un risque. Si ça arrive, c'est pas un drame non plus. Il faut juste l'avouer. Et en disant « ça n'est pas très facile pour moi », on a minoré de moitié ce stress. L'éthique de langage, tout le monde en a. En réalité, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail en amont qui permettra de les combattre. Ces tics seront plus rares, ils ne disparaîtront pas nécessairement, mais ils n'entacheront pas trop votre propos.
Cette épreuve, c'est une petite révolution dans l'éducation française, poursuit Bertrand Perrier. Elle comptera 10% de la note finale du bac.
Un conseil signé Virginie Riva pour Europe 1. Au moins 138 manifestants pacifiques tués ces 6 dernières semaines. Le bilan de la répression en Birmanie, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Faute d'internet, la comparution de l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi a été reportée à la semaine prochaine.
7h08 sur Europe 1. C'est une affaire qui a dynamité la droite française. L'affaire Big Malion. Soupçon de financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2012. Le procès devait ouvrir demain, mais les prévenus pourraient ne faire qu'une apparition.
Oui, Chloé Triomphe, la défense a demandé en effet un report des audiences à cause du coronavirus.
Oui, ce sont les avocats de l'un des personnages centraux de ce dossier, Jérôme Lavrieux, qui sont affectés par le virus et sans défense, on voit mal comment ce dernier, qui était à l'époque le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy et le directeur de cabinet de Jean-François Copé à l'UMP, pourrait comparaître durant les 5 semaines prévues. Jérôme Lavrieux était au cœur des discussions pendant la campagne entre le parti et les sociétés prestataires qui avaient accepté de réaliser de fausses factures. Ces deux avocats sont donc positifs au coronavirus. Virus et l'ensemble de la défense s'est associé à la demande de renvoi par solidarité avec leurs confrères. Le parquet ne s'y opposera pas, a-t-il déjà fait savoir. Il a même déjà proposé d'autres dates entre le 10 mai et le 24 juin pour que l'audience puisse se tenir, dit-il, dans les meilleures conditions et délais possibles. Ces options seront débattues mercredi à l'ouverture des débats en présence de tous, y compris Nicolas Sarkozy, qui avait annoncé qu'il serait présent aux audiences à chaque fois que ce serait nécessaire.
Chloé Triomphe. Ce pourrait être le premier narco-sous-marin fabriqué en Europe. Il a été saisi en Espagne, à Malaga, alors qu'il était en cours de construction. D'après les enquêteurs, il aurait pu transporter jusqu'à 2 tonnes de stupéfiants, des semi-submersibles dont l'utilisation est très courante aujourd'hui en Amérique latine.
Narco-sous-marin, ouais. Faut se figurer quand même le projet du chantier naval des trafiquants de drogue. Puis enfin, on vous parlait hier des cambriolages qui ont visé les joueurs du Paris Saint-Germain et leurs proches. Un phénomène plus courant qu'on ne le pense et qui ne vise pas que les grandes stars et les grands clubs.
Oui, et certains en gardent d'ailleurs un souvenir assez traumatisant, témoignage avec Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
sont trois, cagoulés, tout en noir. Voilà, c'est l'impression de voir ça dans les films.
En 2008, alors qu'il venait tout juste d'emménager près de Lille, Florent Balmont a été victime d'un cambriolage particulièrement violent en pleine nuit.
J'ai eu le fusil sur la tempe pendant bien 10 minutes. Quoi. Ma femme au sol, ma fille qui était dans la chambre aussi, qui a tout eu, mais qui a fermé la porte. On dormait les quatre dans une chambre après. On a eu un peu de sécurité dans la maison pendant quelques temps, mais à un moment donné, on peut pas vivre comme ça. Donc après, on a été obligé de déménager aussi, je crois, 2 mois après.
Et en Ligue 1, les cambriolages se multiplient. À Dijon, cette saison, la maison de 3 joueurs a été visitée. Le gardien de Reims a également été cambriolé. Pour contrer ce phénomène préoccupant, le club champenois propose à ses joueurs des conseils pour mieux sécuriser leur domicile et pour déjouer une filature. À Angers, la gendarmerie qui organise des rondes à l'adresse et les numéros de chaque joueur, car l'impact psychologique d'un vol est important. En 2015, alors que plusieurs de ces joueurs avaient été victimes d'un gang de cambrioleurs, Metz avait été relégué en Ligue 2.
Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h, il est 7h11.